J'aimerais, en guise de méditation ce matin, répondre à la question suivante. Pourquoi se faire baptiser ? Pourquoi se faire baptiser ? Pourquoi se fait-on encore baptiser en janvier 2019 ? N'est-ce pas ringard ? Dépassé ? Désuet ? Est-ce que le baptême n'est pas une pratique révolue d'un autre âge, d'un autre temps ? Quel est le sens véritable de cet acte du baptême dont nous avons tous été le témoin ce matin ? Et j'aimerais brièvement répondre à ces questions avec quatre clés d'entrée. Et la première de ces clés d'entrée, c'est l'obéissance. Le baptême comme un acte d'obéissance. Nous baptisons dans l'Église et nous nous faisons baptiser simplement parce que le Seigneur, parce que Jésus a demandé à ses disciples d'agir ainsi. Alors qu'il allait les quitter et retourner vers Dieu, son Père, Jésus a dit ceci à ses disciples. Il leur a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Nous pratiquons le baptême parce que telle est la volonté explicite de Jésus, de celui dont le baptisé est le disciple, de celui qui donne son sens au baptême. Nous pratiquons donc, c'est notre premier point, le baptême parce que Jésus le demande et donc nous le faisons par obéissance. La deuxième clé d'entrée est celle du témoignage. Le baptême comme un témoignage de la foi du baptisé. Nous venons de voir que le baptême est une instruction de Jésus laissée à ses disciples. Et par conséquent, celui ou celle qui se fait baptiser le fait premièrement en obéissance à cette volonté de Jésus. Ceci dit, il faut préciser ici quelles sont les personnes vraiment concernées par cette instruction de Jésus. En d'autres mots, pour qui est le baptême dont Jésus parle dans le texte de Matthieu 28 que nous avons lu ? Et pour répondre à cette question, l'ordre de ce que Jésus dit dans ce texte de Matthieu est très important. Allez, dit Jésus, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus parle à ses disciples, il leur dit de faire des disciples, c'est-à-dire de témoigner de leur foi, pour que d'autres puissent choisir, s'ils le désirent, de suivre le Christ à leur tour. Puis il leur dit de baptiser celles et ceux qui auront choisi de suivre Jésus. Et c'est comme ça que ça se passe depuis à peu près 2000 ans. Le baptême que nous pratiquons est donc le baptême des croyants. Le baptême de personnes qui sont en âge de comprendre et de prendre cette décision de suivre le Christ. Le baptême de personnes qui ont professé leur foi en Jésus et en son œuvre de salut. Le baptême de disciples, des disciples de Jésus. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie tout simplement que le baptême ne sauve personne. Ce n'est pas le baptême qui sauve quelqu'un. Ce n'est pas le baptême qui donne la foi. Ce n'est pas le baptême qui fait de quelqu'un un enfant de Dieu ou un disciple de Jésus. Je n'ai pas mis de poudre de perlimpinpin dans l'eau du baptistère ce matin. Et il ne s'est rien passé de magique au moment où Clarisse était dans l'eau. L'eau du baptistère n'était pas plus sainte que celle de votre douche ce matin. Clarisse avait déjà la foi quand elle est rentrée dans le baptistère. Elle était déjà disciple de Jésus au moment où elle s'est fait baptiser. Non, le baptême ne sauve personne. Il ne confère de lui-même aucune grâce qui serait reçue par l'acte même du baptême. Et c'est la raison pour laquelle nous ne parlons pas de sacrement, puisque c'est de cela dont il s'agit quand nous parlons de sacrement, d'un acte qui confère une grâce par le fait même et le fait seul de cet acte-là. Mais le baptême, ce n'est pas cela. Et c'est la raison pour laquelle nous ne baptisons pas non plus les petits-enfants. Le baptême est pour le disciple de Jésus, pour celle ou celui qui est déjà sauvé par la foi, pour celle ou celui qui a déjà mis personnellement sa foi en Jésus. Et c'est parce que je suis devenu disciple de Jésus que je désire vivre en conformité à la volonté de Jésus et que je vais donc me faire baptiser. En passant par les eaux du baptême, Clarisse a rendu témoignage de cette réalité, de ce que Dieu par Jésus a déjà fait dans sa vie, a commencé de faire dans sa vie et va encore faire dans sa vie. Elle a rendu témoignage par le baptême, mais aussi avec ses propres mots. Elle a rendu témoignage de sa foi en Jésus, son Sauveur et son Seigneur. Elle a rendu témoignage de son salut reçu par Jésus, qui est mort pour ses péchés et ressuscité pour sa justification. Elle a rendu témoignage de la vie nouvelle qu'elle a reçue en Jésus et de son désir de vivre en nouveauté de vie. Peut-être êtes-vous disciple du Seigneur depuis peu, peut-être même depuis longtemps, mais sans avoir jamais fait cette démarche, sans avoir jamais osé faire cette démarche du baptême. Permettez-moi d'être direct avec vous ce matin en vous posant simplement cette question. Qu'est-ce qui vous retient de le faire? Qu'est-ce qui vous retient de répondre à l'appel de Jésus? Qu'est-ce qui vous retient d'obéir à cette volonté clairement exprimée par le Seigneur en qui vous avez mis votre confiance? Une des étapes logiques qui suit la conversion, c'est le baptême. Le jour de la Pentecôte, nous le lisons dans le livre des Actes, 3000 personnes étaient rassemblées, ont écouté l'apôtre Pierre et ont été touchées par ce qu'il disait. Et ces personnes touchées ont demandé à l'apôtre Pierre: « Frère, que devons-nous faire ? Nous avons été touchés par la parole du Seigneur. Que devons-nous faire ?» Et que répond l'apôtre Pierre? Il leur répond: « Repentez-vous, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. » Et nous lisons quelques versets plus loin. « Ceux qui accueillirent sa parole, la parole de Pierre, reçurent le baptême. En ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées à l'Église. » Si vous êtes disciple de Jésus, le baptême fait partie des moyens que Dieu vous donne de témoigner de votre foi et de votre attachement à Jésus. Pourquoi ne pas décider aujourd'hui, maintenant, que ce sera une des prochaines étapes dans votre vie? Alors oui, c'est impressionnant de venir parler devant tout le monde. Vous êtes impressionnant. Mais toutes celles et ceux qui sont passés par là ont survécu. Ça va, Clarisse? Voilà. Donc, on survit. C'est impressionnant, mais ce n'est pas insurmontable. Et en plus, vous aurez la joie, la satisfaction de l'obéissance au commandement du Seigneur. La troisième clé d'entrée est celle du symbole. Le baptême comme un symbole visible de réalité invisible, de réalité spirituelle. Ainsi, le baptême représente aux yeux de tous ce qui s'est passé dans le cœur, c'est comme ça qu'on le dit généralement, ce qui s'est passé dans la personne, ce qui s'est passé en elle spirituellement, ce qui s'est passé par la foi qu'elle a mise en l'œuvre de Jésus. Et premièrement, le baptême symbolise l'union ou l'attachement du chrétien, du disciple, à Jésus dans sa mort et dans sa résurrection. À sa conversion, c'est-à-dire quand il croit en Jésus pour son salut, le chrétien est uni à Jésus par la foi et il est uni à lui dans sa mort et dans sa résurrection. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parce que j'ai mis ma foi en Jésus, parce que j'ai mis ma confiance en lui et en son œuvre, je suis au bénéfice de tout ce que le Seigneur a accompli pour moi. Je suis spirituellement associé à Jésus dans tout ce qu'il a accompli pour moi. De telle manière que quand Jésus est mort, par la foi, je suis mort avec lui à ma vie de péché. Et de telle manière que quand Jésus est ressuscité, je suis ressuscité avec lui à une vie nouvelle. Le baptême par immersion, celui dont nous avons été les témoins ce matin, symbolise cette union, cette réalité, l'union du croyant avec son Sauveur et Seigneur. Cette union dans la mort et dans la résurrection de Jésus est symbolisée par l'ensevelissement dans l'eau et puis par la sortie de l'eau. Et il convenait pour représenter une telle réalité que le mode du baptême soit celui de l'immersion totale. Et c'est ce baptême-là que nous pratiquons, le baptême qui symbolise et proclame la mort à l'ancienne vie et la résurrection à une vie nouvelle. Baptême qui symbolise et proclame que tout cela, nous l'avons parce que nous sommes unis par la foi à Jésus-Christ. Deuxièmement, le baptême symbolise la purification des péchés. Celui qui met foi en l'œuvre de Jésus reçoit, parce qu'il se repent, reçoit le pardon de ses péchés et la purification de ses péchés. Aux yeux de Dieu, il est lavé de ses péchés, il en est purifié. Dieu va éloigner de lui ses péchés comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Et ainsi, en Jésus, Dieu nous voit purs et saints. Bien évidemment, nous ne le sommes pas. Nous sommes encore pécheurs. Mais Dieu fait le choix de nous voir au travers de Jésus, au travers de son œuvre accomplie pour nous. Et par Jésus, par son sacrifice pour nos péchés, par ses mérites, Dieu nous voit purs et saints. Et le baptême avec de l'eau on l'utilise pour se laver, représente tout simplement cette purification, ce lavage des péchés que nous n'obtenons pas quand nous faisons le baptême, mais que nous avons obtenu par la foi en Jésus. La quatrième clé d'entrée, c'est l'officialisation, le baptême comme l'officialisation de l'entrée dans l'Église. Nous l'avons lu dans le livre des Actes, ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême en ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées. Ceux qui étaient baptisés dans cette Église dite primitive, des commencements, étaient ajoutés à l'Église après ou à la suite de leur baptême. Mais pour être véritablement précis, c'est à la conversion que le croyant devient membre du corps de Christ, qui est l'Église. C'est à sa conversion qu'il est spirituellement ajouté au corps de Christ, à l'Église. Mais seulement ça, c'est une réalité spirituelle. C'est une réalité invisible, c'est une réalité donc que je ne vois pas. Et le baptême qui est un moment privilégié, où je témoigne de ma foi, où je traduis visiblement mon attachement à Jésus-Christ, est de fait le moment évident et logique pour officiellement entrer dans l'Église, pour officiellement y être attaché. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'Églises, dont la nôtre, dans la lignée de ces premiers chrétiens dans le livre des Actes, choisissent le baptême pour faire coïncider l'entrée officielle dans l'Église. Il faut se rappeler ici que l'acte du baptême lui-même dit quelque chose de la réalité de l'Église. Pourquoi ? Parce qu'on ne se baptise jamais tout seul. On se fait baptiser par quelqu'un. Il faut au moins deux personnes, généralement plus, mais c'est le début d'une communauté et très souvent, c'est beaucoup plus nombreux. Et tout cela, donc, fait que le baptême est le moment propice pour être visiblement rattaché à l'Église, même si c'est déjà une réalité spirituelle à partir du moment où je mets ma foi en Jésus. Tout le Nouveau Testament présente la foi comme un engagement résolu à suivre le Christ et à le servir. Et nous pourrions dire, si l'on voulait ajouter une image, que le baptême est un peu comme la signature en bas du contrat, la signature officielle, en tout cas aux yeux de témoins, nous avons été les témoins, comme la signature apposée par Clarisse aujourd'hui au bas de ce contrat d'engagement qu'elle avait déjà pris avec le Seigneur. Et dans cette même pensée, l'apôtre Pierre, parle dans sa première épître, en parlant du baptême, de l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience. L'engagement envers Dieu d'une bonne conscience. Le baptême est en effet un engagement envers Dieu, mais aussi envers l'Église, envers les autres membres du corps de Christ, qui est l'Église, auquel le baptisé est maintenant visiblement attaché. Mais cet engagement n'est pas à sens unique. Nous aussi, nous sommes engagés envers Clarisse ce matin. Je dis « nous » en parlant de celles et ceux qui sont déjà membres du corps de Christ. Nous sommes engagés à cheminer à ses côtés, comme Clarisse est engagée à cheminer à nos côtés. Nous sommes engagés à être solidaires de ses joies, de ses peines, comme elle est engagée à être solidaire des nôtres. Nous sommes engagés envers elle comme elle l'est envers l'Église. Et que le Seigneur nous aide chacun à vivre cela dans cet engagement réciproque que nous avons les uns envers les autres. Amen. Avant d'accueillir officiellement Clarisse dans l'Église et de prier pour elle, j'aimerais vous inviter à chanter un chant qui n'est pas encore très connu. Il me semble qu'on l'a quand même déjà chanté, mais en tout cas, il s'apprend. Oui, on l'a déjà chanté, mais une fois. Mais il s'apprend très facilement. Et c'est un chant qu'on pourrait appeler un chant de consécration. C'est d'actualité d'une certaine manière, où nous disons, nous redisons que nous voulons entièrement et complètement nous donner à Dieu. Alors, ce ne sont pas des paroles qu'on peut chanter à la légère, mais en même temps, ce sont des paroles que nous chantons en sachant que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver et que nous avons besoin que le Seigneur nous aide. Je vous invite à vous lever, nous allons le chanter deux fois.